Ils ont autre chose à faire, ils ont les dealers, ils ont des tas de choses. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il n'y a pas assez de policiers municipaux, parce qu'ils ne peuvent pas être partout. Et l'État, ben, ça fait partie, effectivement, je sais que ça coûte très cher à la commune de nettoyer. Et puis c'est odieux pour vous, parce que souvent, sur les rideaux de fer, on vous tape. Et ce qui était un moyen, c'était de faire des graphes et de payer des graphes à des jeunes. Et à ce moment-là, l'État, il n'y avait plus de table. Voilà ce que je peux vous dire, parce que c'est un peu compliqué, cette affaire-là. Vous comprenez bien, il faut les prendre sur le fait.
Émilie Chalas, vous avez une position sur les tags?
Oui, je vais répondre à la question, même si je suis tentée quand même de rappeler que j'ai été particulièrement convaincue, monsieur le maire, par votre défense de la sécurité pour que Gérard Collomb puisse vous attribuez 70 effectifs policiers supplémentaires au 7 ou 20 engagements à Grenoble sur la sécurité. Sur les tags, deux éléments. D'abord, bien sûr, la vidéoprotection qui va permettre de repérer en fait les petits délinquants pour les petits larcins, puisque l'avantage de la vidéoprotection, c'est bien d'éviter d'intervenir sur le qui-vive ou de prendre en poursuite des délinquants, mais bien de les suivre a posteriori dans leur acte de délinquance et de remonter le chemin qu'ils ont parcouru pour arriver à une reconnaissance bien précise, à la fois peut-être du visage lorsqu'ils sont cagoulés initialement au moment du larcin, soit par leur voiture ou leur scooter avec les immatriculations. Donc c'est évidemment par la vidéoprotection qu'on arrivera à sanctionner. La sanction, c'est aussi un accord et un travail avec tous les partenaires de l'intervention policière et un centre de sécurité urbain métropolitain a cet avantage de mettre tous les acteurs autour de la table. C'est un véritable savoir-faire qui semble échapper en local, où effectivement il y a les gendarmes, la police nationale, la police municipale, tous les acteurs de la prévention également, et ainsi que les chefs d'établissement, parce que parfois sur les petits actes de tag, on a affaire à des mineurs. Donc on a un vrai sujet, et on sait aujourd'hui, partout c'est fait ailleurs, faire en sorte d'avoir une méthode où tout le monde travaille ensemble. Donc il va y avoir un sujet avec le procureur de la République, M. Vaillant, nous l'avons déjà abordé, sur l'ambition de rendre plus efficace les travaux d'intérêt général. La sanction immédiate est obligatoire. On l'a vu d'ailleurs avec Giuliani à New York, la vitre cassée. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un larcin, non seulement on répare, mais après on donne des heures à la collectivité pour réparer sa faute. Et on le fait tout de suite. Et on le fait en accord avec la justice pour que les choses soient effectivement opérationnelles. Voilà ce que je peux vous dire dans le temps imparti, que je vous remercie de chronométrer désormais pour que chacun puisse parler à temps égal. Merci.
Tout à fait.
Merci, ça va vous aider.
Voilà.
Ces tags correspondent, enfin, contribuent à l'image de la ville. Bon, ça s'ajoute à la main de propreté, ça s'ajoute... Enfin, c'est un cumul, quand il y a des roms, des campements, des tags, des ordures partout, des poubelles qui débordent. C'est l'image de la ville. Désolé, on est entre nous, on peut se le dire, parce que ceux qui arrivent le voient, et on n'a pas besoin de faire du bashing. Ceux qui repartent se disent, voilà ce que j'ai vu en arrivant à Grenoble. Donc, on ne voit pas ça ailleurs. Quand on va dans les autres villes, on ne voit pas ce climat. Il n'y a que nous qui avons réussi cet exploit. Il est évident qu'il faut lutter contre tout à la fois. Hein, ça passe par tout, pas en une fois, parce que ces habitudes détestables qui ont été prises de mettre ces tags partout sur les murs des copropriétés toutes neuves, des modestes copropriétés qui viennent de se refaire. Et sur lesquels on tague salement, permettez-moi de vous le dire, et qui encore des pertes de valeur de biens pour des gens modestes. Il va falloir lutter contre tout ça, mais tous les acteurs de la sécurité que je rencontre me disent, vous savez, il va falloir y aller doucement, il va falloir y aller pas à pas pour remonter tout ça. Il va pas falloir prendre ça de front. Parce qu'il y a partout cette délinquance s'est installée, il va falloir que vous ayez un plan avec tous les aspects de cette délinquance, avec l'aide des caméras de vidéoprotection qui permettront effectivement d'agir en temps réel et d'attraper, mettre des amendes chaque fois qu'on le pourra. Mais c'est l'ensemble de cette délinquance-là qu'il va falloir affronter de façon intelligente, correcte, modérée au départ, pour la faire reculer, parce qu'elle est
partout. Il suffit de marcher dans la ville, de sortir le soir, le jour de la journée pour le voir. Mais nous, pour ma part, j'ai un plan, le collectif de la société civile va s'y mettre à partir du mois de mars et je crois que nous aurons des résultats.
Merci. Olivier, double coup.
Oui, je le redis avec beaucoup de gravité, il faut refaire prévaloir l'autorité publique. Ça veut dire sortir de ce sentiment de déliquescence de l'autorité publique dans notre ville et ce sentiment d'une culture de la défausse où en permanence, quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est toujours la faute des autres. C'est toujours la faute de l'État, c'est toujours la faute de la métro, etc. Je serai un maire responsable qui mettra en place les outils et les politiques pour apporter des réponses concrètes immédiates. Vous les avez sur la présence humaine, vous les avez sur ce centre de supervision urbain qui, je le redis, ça fait parler beaucoup de la ville de Dijon qui a été la première à le faire à cette échelle-là, permet de régler l'ensemble et de gérer l'ensemble des difficultés en même temps. Et d'abord, la question des tags, parce qu'en effet, on ne réglera pas la question des tags sans cet outil, on ne les réglera pas non plus sans une culture de la sanction qui soit une culture de la sanction éducative. Les travaux d'intérêt général, oui, bien sûr, il faut que la ville soit plus proactive pour en proposer avec les associations, avec la justice, parce que ça se construit ces politiques-là dans la durée. Et donc, il va falloir, ce sera en effet long, ça exige beaucoup d'opiniâtreté et d'humilité, reconquérir progressivement l'ensemble de l'espace public pour faire prévaloir la règle commune. Nous le ferons avec beaucoup de détermination et en mettant à disposition de notre ville les outils aujourd'hui modernes qui sont déployés dans les grandes métropoles européennes. Notre ville est en retard et sans céder au chronobashing, parce que c'est en effet le rôle du maire que de préserver l'image de sa ville, nous devons convenir aujourd'hui que la situation de la gestion de l'espace public dans notre ville n'est pas acceptable. Il faudra y mettre un terme.
Alors que proposez-vous, monsieur Pierre, justement, à propos des dames ?
Oui, d'abord un petit mot sur la tolérance zéro. La tolérance zéro, je crois qu'on le partage tous. Il n'y a personne qui pourrait être un petit peu tolérant pour avoir un petit peu de délinquance. Non, on est tous pour une tolérance zéro, c'est une évidence. De même que sur l'image de la ville, la présence de tag, effectivement, nuit à l'image de la ville. La présence de délinquants, c'est vrai, ça a été dit, nuit à l'image de la ville. Il n'y a qu'à voir comment on parle de Grenoble depuis le début de cette campagne, les comparaisons avec le Valois, Balkany et consorts. Donc oui, effectivement, la présence de délinquants nuit à l'image de la ville. Un troisième mot sur les travaux d'intérêt général, parce que je crois que cette question-là, effectivement, est centrale. La ville de Grenoble est la première collectivité en Isère à proposer, en nombre, à proposer des travaux d'intérêt général. Et nous sommes là, en lien avec le procureur, et tout ce qui peut être fait dans ce domaine-là fonctionne, hein, et vraiment, je crois que c'est un axe fort. Sur la question des tags, les tags, c'est évident qu'ils nous nuisent aujourd'hui, ils nuisent à nos propres équipes. Hein. Nous avons 10 personnes à temps plein qui nettoient la zone dans laquelle ils passent tous les jours en centre-ville, donc nous pourrons peut-être rediscuter de façon trimestrielle le périmètre, parce qu'aujourd'hui c'est un périmètre qui est fixe, que nous n'avons pas changé hein, d'ailleurs, et qui vit, évidemment, il y a des passages tous les jours. Mais je crois aussi que nous pouvons faire des partenariats, ça avait été évoqué avec la belle ville, pour aussi continuer à peindre des choses qui soient jolies, elles, sur les stores, notamment des commerces, continuer à faire des chantiers ouverts au public où ce sont les habitants qui viennent peindre et décorer un secteur de leur ville. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, ces tags, on s'arrache les cheveux. Il y en a, aujourd'hui, on est par mois à plus de 300 tags enlevés. Donc c'est une action que nous faisons qui est forte, qui était réservée il y a peu à peut-être des fils de bonne famille qui voulaient vivre un peu d'exotisme, qui maintenant trouve un caractère politique et plus uniforme. Donc nous agissons, on a environ 10 personnes, nous sommes prêts à revoir avec tous les périmètres dans lesquels ils passent tous les jours, ça ne peut pas être partout de la surface, et puis ailleurs, bah, continuons à batailler pour un espace public que l'on embellit nous-mêmes, c'est une lutte de terrain.
Alors justement, en parlant d'investissement,
la transition.
Oui,
alors on va parler d'écologie dans les enfants. Est-ce que vous voyez l'idée de comme on dit aujourd'hui l'éclairage de choses de la ville pour mettre en avant, particulièrement les commerces, pour la question. Ensuite, quelles sont vos solutions pour embellir Grenoble et mettre en valeur son patrimoine à la fois culturel, architectural et culturel. Et j'insiste bien sur la dimension culturelle et architecturale parce qu'elle est liée au tourisme. Et faire le lien avec cette question-là. Merci.
Donc, 2 minutes chacun.
Merci.
Alors, au niveau de l'écologie et de l'embellissement, moi, personnellement, je proposais de végétaliser les façades, donc verticalement. J'ai vu ça en Suisse et c'est très, très, très joli. Ça, en fait, ça fait un îlot de fraîcheur l'été, très, très important au niveau de la, ça évite la climatisation. Ça évite aussi, ça peut éviter les ravalements, forcément, qui sont tous les 10 ans. Et parce qu'il suffit chaque année de couper les feuilles, vous savez, qui se mettent en haut des toits. Mais c'est extrêmement, au niveau écologique, ça amène de la biodiversité. Et au niveau de la qualité de l'air, je pense que c'est très bon aussi. Donc un engagement que moi je ferai au niveau d'à peu près 10% des bâtiments, cette végétalisation au cours du mandat. Au niveau de... il y a une question...
Je voulais parler surtout de l'éclairage nocturne, de la mise en valeur du patrimoine culturel et architectural.
L'éclairage n'est pas suffisant à l'heure actuelle. Je vous l'ai déjà dit, mais il y a des tas de gens qui se plaignent de votre éclairage, parce que, en fait, quand il n'y a personne, bon, il n'y a plus rien, c'est-à-dire tout est noir. Et dès que la personne arrive, le temps que les LED soient opérationnels véritablement, ça prend un peu de temps. Et les Grenoblois se plaignent effectivement de l'éclairage public. Et quant à
l'embellissement des autres bâtiments.
Oui, bâtiments, pas de l'argent. D'accord. Je vous ai dit depuis le début que cette ville est extrêmement endettée et je ne vois pas, au niveau de l'investissement, je ne vois pas comment on peut faire. Voilà.
Avez-vous des propositions, Émilie Chalas, à ce sujet ?
Oui, effectivement, c'est un enjeu majeur pour Grenoble et sa métropole et son bassin de vie en général. D'abord, la situation de la pollution atmosphérique à Grenoble n'est plus à démontrer. Et concernant les espaces verts, nous sommes à 14,6 mètres carrés par habitant, alors que dans les 50 plus grandes villes de France, la moyenne est à 48 mètres carrés. Ce sont des chiffres de l'Observatoire des villes vertes. Y a-t-il eu des parcs créés depuis 6 ans ? Non. Donc il y a un sujet, effectivement, de créer et d'engendrer la théorie de vie naturelle à Grenoble et dans la métropole. Plus d'arbres, plus de végétal, faire de Grenoble une ville d'eau pour qu'à la fois ça puisse embellir effectivement le centre-ville avec des nécessaires réappropriations d'espaces publics et de traitement des sols. On voit l'état, je parle de grands rudes qui sont absolument catastrophiques. Et puis un enjeu aussi de dépollution, parce que quand on va planter 50 000 arbres, que ce soit à plat, en hauteur, des petits, des grands arbres, peu importe, ça va permettre de filtrer l'air aussi. Et puis évidemment, la nature en ville et l'eau, les arbres, la végétalisation, ça permet un rafraîchissement de Grenoble. Et à terme, puisque vous n'êtes pas sans savoir que dans les Alpes, le réchauffement climatique accélère deux fois plus rapidement qu'ailleurs en France. Donc c'est un sujet pour Grenoble. On a tous subi au mois de juillet ou au mois d'août une période, voire en juin même cette année, une période de canicule absolument détestable, avec une pensée évidemment pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir monter dans nos massifs environnants ou partir en vacances. Donc effectivement, un enjeu de vie nature, un enjeu aussi d'attractivité en développant 6 parcs en 6 ans, pas au centre-ville, pas forcément dans le sud de Grenoble, mais dans tout l'espace interstitiel où effectivement il y a très peu d'espace vert. Et puis des enjeux d'exemple d'aménagement, la réappropriation des quais de l'Isère au niveau de la gare de départ du téléphérique, où on va aller le dimanche par exemple fermer les quais et laisser ouverte la voie sur berge et venir la recouvrir pour gagner de l'espace et retravailler tout cet espace en connexion avec l'Isère. Ça va être aussi la démolition de l'office du tourisme pour y créer un immeuble forêt. Un immeuble forêt, c'est quoi ? C'est des commerces supplémentaires. On le sait, les commerces, plus il y a de commerce, plus il y a de commerce. Donc ça, c'est très important de le développer. La place de Conflans, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis le développement touristique, la connexion au massif, la rénovation patrimoniale, notamment du Parlement, qui pourrait, en partenariat avec le département, faire l'objet d'une belle requalification qui, pour l'instant, traîne un peu. L'extension du musée d'art moderne, la création, dans le palais des sports, du musée des Jeux Olympiques, avec une dynamique dans le parc Pomistral à recréer. Et enfin, les questions d'événementiel, dont nous reparlerons, je l'espère, en lien avec l'animation.
Merci. Alain Carignon.
Oui, on a évoqué donc le patrimoine et l'aspect touristique de la ville qui est malheureusement un peu en déperdition comme les congrès.
et qui sont un élément, un facteur de développement considérable. Et c'est là où il nous faut faire un effort très très important. Alors nous avons des atouts formidables, je veux dire par là le musée de peinture, les fouilles archéologiques de l'église Notre-Dame, Saint-Laurent, l'église Saint-Laurent. On a un aspect culturel MC2 avec des spectacles qui peuvent attirer hors les murs. On peut avoir un produit touristique attirant à Grenoble, on peut le créer, à condition bien sûr d'avoir une ville propre, sécure, et quand on arrive à la gare, qu'on n'ait pas les spectacles qu'on a vus pendant ces dernières années. Et si on arrive à faire ça, ce qui ne va pas être trop difficile, on peut recréer une attractivité touristique grenobloise. Effectivement, utiliser beaucoup mieux le palais du Dauphiné, l'ancien palais du Parlement, peut créer par exemple simplement sur la place Notre-Dame un aspect verdure, une sorte de pyramide de verre pour qu'on puisse voir de la place les fouilles archéologiques, créer des lieux comme cela qui nous permettent d'attirer les personnes qui peuvent visiter la ville. Depuis 2 ans, donc, nous avons proposé nous de effectivement démolir la maison de tourisme pour créer éventuellement une place, de réaménager de place de maître, parce qu'il nous faut redonner de la respiration. Et puis bien sûr, on a créé énormément d'îlots de chaleur avec ces dernières années, avec le macadam et le béton qui ont été faits, le Béranger, la Cutsamba, etc. Il y a énormément d'espaces qui ont créé des îlots de chaleur. Il faut que nous fassions revenir la verdure dans la ville pour lutter contre ces îlots de chaleur qui ont été malheureusement développés ces dernières années et qui vont poser beaucoup de problèmes dans les prochaines années. On peut quand même végétaliser, mettre des arbres beaucoup, de façon beaucoup plus importante. Ce qui signifie aussi, stopper la bétonisation de la ville.
Merci. Olivier Landecou.
Oui, en fait, comme je ne prétends pas raser gratis et que j'ai fait l'effort de chiffrer le projet que j'ai présenté la semaine dernière, je pense qu'il faut d'abord qu'on se dise collectivement qu'il va falloir regagner des marges d'investissement. Pour regagner des marges d'investissement, il faut être capable à nouveau à la fois de porter des éléments de développement économique, des éléments de construction de logements sur Grenoble et sur l'agglomération, sans forcément augmenter l'emprise foncière. Donc il va falloir porter une vraie vision de l'urbanisme et des gestes architecturaux, quitte à s'élever parfois sur certains secteurs de la ville un petit peu en hauteur, si nous voulons avoir une dynamique de développement, de recettes, de croissance qui nous permettra à la fois d'avoir ces partenariats avec les acteurs privés du territoire qui seront nécessairement féconds et que nous devrons mobiliser pour notre patrimoine. On le voit sur la Tour Perret où les municipalités successives essaient de trouver des partenariats avec Vika ou tel autre acteur économique pour financer sa réhabilitation. On le voit sur aujourd'hui des lieux comme l'Orangerie par exemple ou même l'ancien musée de peinture avec la plateforme où on n'est pas à l'échelle de la valorisation de notre patrimoine. Grenoble n'est pas une ville qui a un patrimoine très riche par rapport à d'autres, mais que nous ne le valorisons pas mieux, il y a aujourd'hui à reprendre une ambition à la matière. Ça suppose en effet une méthode, place après place, de reconquérir la qualité urbaine. Ça passera par la végétalisation, tout le monde est d'accord là-dessus, la création de micro-forêts urbaines, la création d'îlots de fraîcheur avec la présence de fontaines ou d'eau dans les villes, parce que c'est évidemment indispensable compte tenu du changement climatique. Ça va supposer aussi que nous soyons capables de porter le développement de Grenoble en créant du consensus et en cessant d'opposer les acteurs les uns aux autres. Aujourd'hui, on sort de plusieurs années pendant lesquelles on a eu le sentiment qu'à chaque fois qu'un aménagement était décidé, c'était contre les uns et c'était une victoire des uns contre les autres. Il faut recréer du consensus sur la vision de la ville aujourd'hui. Ça prend du temps, c'est moins facile que de faire des grandes propositions phares comme ça qu'on met dans le débat public et qu'on ne sait pas financer. C'est plus exigeant et c'est le chemin que nous emprunterons.
Merci.
Merci. Oui, d'abord je me réjouis qu'il y ait effectivement un sens dans l'histoire et que là où peut-être nous étions seuls à proposer des plantations massives d'arbres en 2014, maintenant ce soit consensuel. Je crois que ça veut juste dire que les mentalités progressent et c'est plutôt réjouissant. Nous avons clairement cherché à avoir une politique patrimoniale forte et nous continuerons à la porter. Nous avons construit la candidature pour devenir ville d'art et d'histoire, label que nous avons obtenu en septembre 2017. Nous avons porté des arrêtés pour le ravalement des façades dans le centre-ville. Nous avons effectivement végétalisé, ça se voit sur les arbres que nous venons de planter sur Courberia, ça se voit de façon plus manifeste encore sur les arbres qui ont été plantés rue de la République. Nous continuerons cette stratégie de plantation d'arbres parce que je crois qu'elle embellit les choses et de mise en valeur d'un patrimoine qui est réel, qui est extrêmement riche.
L'orangerie, vous le savez, va être portée par un collectif d'acteurs bois de bois pour retrouver une vitalité, notamment autour de la gastronomie. La tour Perret, les travaux là commencent. L'architecte en chef des monuments historiques a été nommé il y a un an. C'est à la fois un défi technologique de recherche que l'on va conduire, c'est la réhabilitation de ces bétons. C'est aussi un phare pour Grenoble que nous pouvons redonner, qui est fermé depuis 1960. Nous avons voté le lancement de la réhabilitation en 2016. Nous avançons puisque l'architecte a été nommé il y a un an et que les travaux commencent cette année. Pareil sur Dolomieu, nous avons fini, c'est un des deux bâtiments qui sont sur la Bastille, papier esthétique depuis l'université. Les a quittés, les a rendus à l'État, qui les a vendus aux enchères à des promoteurs privés. Nous avons trouvé là un porteur de projet pour enlever de ces deux verrues, pour la transformer. J'espère que nous trouverons un partenaire pour faire le deuxième. Et puis aussi, toujours cette ambition de continuer à transformer la ville. Et sur l'office du tourisme, de fait, là aussi, nous proposerons d'abord une alternative de choix au Grenoblois avec deux prérequis, conserver là une bibliothèque et végétaliser l'espace. Mais après, je pense que ce sera au Grenoblois de choisir quel format ils veulent pour cet office du tourisme que nous voulons de fait transformer. Ça a été dit, je crois que c'est un projet qui est aussi assez consensuel à travers les différents candidats. Voilà. Je termine en donnant une petite bonne note quand même au département, puisque la rénovation du palais du Parlement, elle est partie. C'est un projet ambitieux que nous travaillons avec le conseil départemental. C'est son bâtiment, il le porte, hein, et nous travaillons avec lui. Ça s'est déjà lancé, et moi je m'en réjouis, avec notamment une traversée à travers le palais du Parlement pour continuer ce retour vers les berges que nous portons de nos voeux.
Alors vous avez parlé à plusieurs reprises les uns et les autres, les unes et les autres, de cette coopération entre acteurs. Monsieur Hoffmann, vous avez des questions à nous vous poser à ce sujet, enfin dans un autre domaine.
À ce sujet, parce que ce soir c'est la Belleville, c'est la Fédération des Unions Commerciales qui organise cette soirée. Et j'ai une question à vous poser d'abord. Avez-vous la volonté de travailler en commun avec tous les acteurs du territoire, y compris les associations, bien entendu, en termes de communication pour valoriser notre ville? Et j'ai une question plus pertinente. Seriez-vous prêt à demander un transfert de la compétence commerce à la ville pour plus d'efficacité?
Non. Oui. Transférer la compétence...
Transférer la compétence commerce qui appartient à la métropole aujourd'hui, la retransférer à la ville. Je tenais à vous dire qu'il y a 6900 commerces sur la métropole, dont plus de la moitié est Grenoble. Donc si vous voulez, les commerçants de Grenoble ont un peu l'impression d'être pas lésés, mais disons que le fait d'avoir 3500 commerces pourrait peut-être amener à revenir sur la municipalité pour la compétence.
Personnellement, je pense que ça n'est plus possible, en fait, de reprendre la compétence au niveau des commerces. Maintenant, nous sommes en métropole. Et votre autre question, c'était...
Est-ce que vous pensez qu'on allait continuer à travailler ensemble avec les unions commerciales?
Ah, bien sûr, évidemment. Ça,
et comment, évident. Et comment?
Bien sûr. C'est très important de travailler ensemble, hein, ça c'est clair. Alors je réponds très vite parce que je ne vois pas...
D'accord. Émilie Chalas?
Oui, un mot sur le fait de travailler ensemble, évidemment, ça va de soi. Je pense que tous les candidats vont vous dire la même chose ce soir. Après, il y a un principe de réalité dans les faits. Vous tirez le bilan de ces 6 années en tant que commerçant et la façon dont on a pu travailler avec vous jusqu'à maintenant, dont on travaillait peut-être avant avec vous. Et dans demain, on pourra construire ce partenariat. J'ai envie de dire moi en introduction. Ça va de soi. Je crois aussi que la Belleville, par rapport au nombre très important de commerçants et de commerces qu'elle représente et le poids, l'enjeu que représente le commerce pour la dynamisme du centre-ville, le rayonnement de Grenoble et la dynamique économique de notre territoire, ne peut que être accompagné par une collectivité, quelle qu'elle soit, ville ou métropole, j'en dirais un mot. Et en termes de moyens, notamment, parce que je vois trop aujourd'hui dans l'organisation des animations avec les uns et les autres, lorsqu'il y a le marché de Noël, lorsqu'il y a des célébrations à gauche ou à droite, ou des fêtes de quartier, ou ou brocantes, ou braderies, où finalement rien n'est vraiment tout à fait coordonné. Il y a quelque chose qui relève quand même du dialogue, de l'organisation, de la visibilité, en fait de stratégie. Je crois que cette stratégie, nous devons la construire absolument avec vous, parce qu'un élu n'a pas forcément toutes les données des acteurs qui le représentent et qu'il porte, et qu'il est fondamental de vous écouter et de faire avec vous. Donc ça, ce partenariat me paraît fondamental. Sur les compétences, un mot. La loi engagement et proximité que nous avons votée à l'Assemblée il n'y a pas très longtemps va permettre potentiellement, effectivement, de redescendre des compétences. Pas dans le fait que la métropole ne s'en occupera plus, mais elle peut redéléguer à des communes à l'intérieur de sa métropole une compétence. Donc c'est fort possible. En revanche, je ne suis pas sûre que ce soit là la bonne solution. Moi, je crois qu'il faut de la méthode, il faut du dialogue et il faut aussi des personnes compétentes qui pilotent à la fois l'aspect commercial à l'échelle métropolitaine, mais aussi dans la ville de Grenoble, qui sachent de quoi ils parlent sur la question des commerces, qu'ils écoutent ce que les commerçants ont à leur dire, ce que vous, la belle ville, avez à leur dire, et qu'ils dessinent ces enjeux-là. Et enfin, mon temps est écoulé, donc je dirai en conclusion, très simplement.
Vous aurez une minute de conclusion chacun. Oui.
On ne fait rien tout seul, rien. Il faut la coopération des unions commerciales de la belle ville à la base. Il faut la coopération de la mairie, de la métropole, du département, de la région, de l'État. Et tout l'art du chef d'équipe, c'est de mettre en synergie tous ces éléments. C'est comme ça qu'on fait des grandes choses et des choses importantes et qu'on crée une direction qu'on obtient. Grenoble a obtenu de grands équipements par ces synergies que nous avons créées en son temps. Je suis convaincu qu'on peut les recréer. Ensuite, deuxième élément, l'agglomération et la ville sont hypertrophiées. On a ajouté des strates de la métro sans rien changer aux strates de la ville. Ce qui fait que le citoyen de base, et en particulier le commerçant, pour ses terrasses, pour toutes les questions qu'il a à poser, est noyé dans une bureaucratie considérable, avec des allers-retours considérables, inimaginables. Il faut donc simplifier tout ça. Dans nos propositions, il y a la suppression des secteurs de la ville, il y a la ville, les quartiers et la métropole, et il y a le fait que chaque fois qu'un avis est demandé à la ville, cet avis devient décision, de façon à ramener très près de la ville, très près du terrain, la décision. Je suis favorable au fait que la métro délègue le commerce et d'autres pouvoirs, d'autres fonctions aux communes. Je suis pour un grand retour des communes pour tout ce qui est fonctionnel, pratique, tout ce qui doit être répondu au plus près du terrain, et que la métro s'occupe des grands sujets, mobilité, attractivité, économie, toutes les questions de communication, image, et puis qu'on ramène aux communes tous les pouvoirs précis qu'elle doit exercer. Ça, il faut faire très très vite, parce qu'on est arrivé à un niveau d'hypertrophie qui est très très élevé et qui rend le fonctionnement démocratique très compliqué, qui éloigne les citoyens d'ailleurs de la participation parce qu'ils n'y comprennent plus rien. Donc ça, cette simplification, ce sera un acte très important de nos propositions.
Olivier Noblecourt.
La première chose que nous allons faire, c'est que nous allons créer à l'échelle des secteurs qui sont des niveaux de vie pertinents, parce que c'est ce qui permet d'avoir un partage, un travail en commun, parce que c'est facile d'avoir des grands mots sur la coopération, mais il faut que cette coopération elle soit à la bonne échelle. Et l'échelle d'un quartier, c'est souvent trop petit pour penser l'ensemble des enjeux d'animation commerciale. Donc nous mettrons dans chaque secteur de la ville des fonctions de managers de secteur qui auront pour tâche à la fois d'être les interlocuteurs de proximité des commerçants et de penser les enjeux d'animation commerciale à l'échelle de chaque secteur de la ville. C'est très important pour les secteurs aujourd'hui qui sont en déprise commerciale. Je pense au secteur de Stalingrad, je pense au bout du cours Beria, où il y a beaucoup de commerçants qui sont aujourd'hui en souffrance et qui ont l'impression qu'il n'y a plus de politique publique qui s'adresse à eux. Donc nous aurons une stratégie commerciale sur chacun des secteurs de la ville, et ça c'est un point majeur. Deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, la belle ville n'est pas assez reconnue au niveau de la métro, mais pour moi, il ne faut surtout pas se rabougrir sur la ville. Il faut poser plus à la métro. Le vrai sujet, c'est de faire reconnaître par la métro le fait que le commerce de Grenoble ne peut pas être considéré à l'équivalent du commerce d'autres communes. Et donc aujourd'hui, c'est une question, en effet, d'engagement, de poids politique de la ville-centre vis-à-vis de son commerce à la métropole. Mais de grâce, ne faisons pas le choix du repli et du rabougrissement. Moi, je ne considère pas que les commerces soient un petit dossier qui doit être ramené à l'échelle communale. Je pense que c'est un grand enjeu qui doit continuer à être porté à l'échelle métropolitaine.
Et que les enjeux qu'on va avoir, peut-être dans la discussion s'il nous reste quelques minutes, sur l'ERPIC, sur les grandes stratégies de zones commerciales aujourd'hui, sur la génération, sur l'attractivité de l'ensemble du secteur. Moi j'étais à la soirée organisée par la FNAIM sur l'immobilier d'entreprise, l'immobilier commercial. Ce que disent les professionnels du secteur, c'est qu'aujourd'hui il y a des dynamiques qui peuvent être plus fortes encore si on fait de la montée en gamme, si on a des enseignes qui viennent et qu'on peut avoir des polarités complémentaires dans la métropole. Je trouve qu'il n'y aurait rien de pire que de revenir à une vision sous cloche et rabougrie du développement de la ville et de se contenter d'une vision à court terme de pseudo-proximité qui en fait oublie l'intérêt des commerçants, qui est un intérêt d'attractivité qui évidemment est non seulement métropolitain, mais concerne la grande région urbaine.
Éric Piolle, pour finir sur ce sujet.
Oui, merci. Évidemment, le travail collectif est fondamental, mais on s'est travaillé avec tout le monde, avec l'État sur l'obtention de la voie de covoiturage, avec la région sur Minatec et sur Apexpo, avec le département sur les 50 ans des JO, sur le Tour de France, sur la culture, sur le palais du Parlement, sur le collège du CEOBRAC. Et de fait, je crois que nous portons aujourd'hui un projet qui est majeur et qui répond à cet enjeu de défi climatique, qui répond à cet enjeu de comment nous vivons aujourd'hui ensemble. C'est la candidature à être capitale verte européenne en 2022, tous ensemble. Et c'est cela que nous travaillons à la fois avec l'université, avec le monde économique, avec le monde de la culture, le monde du sport, la société civile, les institutions, y compris le parc du Vercors, y compris le parc de la Chartreuse. Nous avons là un projet collectif pour nous fédérer. Alors sur la question du commerce, moi je crois aujourd'hui que la question n'est pas tant de redéléguer à la ville, la question est une question pour la métropole. Nous n'avons plus de doublons, nous avons effectivement transféré l'ensemble de nos équipes à la métropole pour éviter les concurrences, les doublons qui existaient dans les mandats précédents. Il y a une visibilité claire. L'enjeu pour la métropole, dans le sujet du commerce comme dans d'autres, c'est la question de la proximité. Et aujourd'hui, finalement, ce contact, effectivement, il est parfois difficile à porter quand c'est le maire d'une autre commune qui a déjà sa mairie et qui, en plus, se retrouve à devoir gérer tout d'un coup la voirie tout Grenoble et c'est colossal, ou le commerce à Grenoble et c'est colossal. C'est pour ça que nous proposons la création d'un comité stratégique annuel avec vous pour partager les enjeux, pour partager les stratégies, les évaluations, et puis un comité mensuel qui sera sous l'autorité du maire. Non pas parce que la métropole lui déléguera cette mission, mais juste parce qu'en équipe, au sein de la métropole, notre enjeu de gouvernance, c'est de faire que, effectivement, en proximité, les maires puissent être des représentants forts de la politique métropolitaine. Et en matière de commerce, ça nous permettra, je crois, de continuer à avancer. Moi, je salue le travail de Guy Julien, qui a été fait, qui a été présent. Je crois que nous pouvons aller plus loin, beaucoup plus loin ensemble en matière de coopération.
Merci. Alors maintenant, on va passer au dernier terme. Et c'est le terme aussi de cette soirée. Nous allons parler évidemment de la situation commerciale, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que de nombreux commerçants souhaitent que le commerce de centre-ville soit redynamisé et ils ne sont pas très favorables à la création de grands centres commerciaux périphériques qui leur font concurrence. Donc je vais passer la parole à Stéphanie Monroe qui va vous poser quelques questions à ce sujet.
Alors, comment souhaitez-vous revitaliser le commerce en centre-ville? Avez-vous des pistes ou des solutions pour la réouverture des locaux vacants, qui est d'environ 10%, comme vous nous l'avez souligné tout à l'heure? Avez-vous aussi des idées sur l'affectation de ces locaux vacants?
Je pense qu'il faut mettre une taxe sur les magasins fermés qui visent à inciter les propriétaires à louer leur commerce. Non, vous allez voir, lorsqu'ils sont vides. On pourrait d'ailleurs appeler cette opération zéro rideau baissé. Parce que le fait d'avoir des rideaux baissés, eh bien c'est très mauvais pour l'image de la ville. Le droit de préemption permettra aussi d'acheter en priorité un commerce lorsque celui-ci est vendu ou loué pour diversifier également l'offre commerciale. Et moi je propose aussi une création d'un business angel réunissant banques et des particuliers grenoblois, incitant à la création d'entreprises 100% locales. En ce qui concerne donc, je crois aussi concernant le projet NERPIC, les fameux 24 000 mètres carrés, ça si il se fait et il se fera, croyez-moi, eh bien ça va tuer les commerces de Grenoble.
Bien. D'autres propositions, c'est bon?
Je voudrais donc refuser l'expansion infinie du commerce en périphérie sans compromettre gravement l'efficacité des actions de redynamisation du centre-ville, d'encadrer l'implantation d'équipements commerciaux sur le territoire en réglementant les modalités d'installation et d'extension des grands équipements en périphérie. Et puis, je crois que je vous ai tout dit.
Merci. Donc, vous répondez déjà à la question suivante. On vous la reposera peut-être pas. Justement, sur les centres commerciaux en périphérie, on en reparlera. Émilie Chalas, alors, pour la revitalisation du commerce centre-ville, que proposez-vous ?
Alors, effectivement, vous l'avez compris, je pense, à travers ce débat depuis plus d'une heure, l'enjeu de la revitalisation du centre-ville ne passe pas que par l'intervention sur le commerce en tant que tel. C'est une stratégie globale de reconquête du centre-ville qu'il faut adopter, à la fois dans l'embellissement et les enjeux de sécurité du centre-ville, mais aussi en termes d'attractivité du territoire, avec les enjeux d'accessibilité, avec les enjeux reconquête des consommateurs qui viennent se rebalader dans Grenoble. Moi, je me souviens, étant petite, on allait se promener à Grenoble, manger une glace, et puis pouf, voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus ce sentiment de balade en ville. Peu de gens viennent se promener, etc. Il y a des gens en ville, M. Maire le disait tout à l'heure, effectivement, mais la capacité à consommer et le panier moyen, on le sait tous, vous le savez mieux que moi, baisse. Et c'est ça aussi la réalité. Donc il faut absolument préserver l'équilibre sociologique de notre belle ville de Grenoble pour relancer cette dynamique. De façon plus précise, on peut effectivement avoir des outils, que ce soit par les acquisitions foncières ou de fonds de commerce des commerces, et puis ensuite de les revendre à bas prix ou d'accompagnement éventuel. On sait le faire, on peut le faire, mais je crois que indéniablement, il faut reprendre les choses à la racine et que Grenoble change d'image. On passe effectivement du temps à redynamiser et rendre attractif à nouveau ce centre-ville. Vous dire aussi que l'attractivité et la revitalisation d'un centre-ville passe par son animation. Je ne sais pas si vous aurez une question sur l'animation. Sur l'animation, je crois que les 380 000 euros de la fête d'études pourraient tout à fait être utilement redistribués dans les animations de la ville de Grenoble de façon plus efficace, de façon plus valorisée, en partenariat avec les commerçants de la ville de Grenoble pour faire vivre toute la ville de Grenoble et pas seulement une partie. Je crois que ce budget-là pourrait nous permettre quand même effectivement de développer plusieurs animations de centre-ville et évidemment les réaménagements urbains, que ce soit l'office du tourisme, la place Robinson ou d'autres qui émergeront au cours de la campagne dans notre projet, pourront là aussi à nouveau faire rêver et que peut-être dans 15 ans, quelqu'un qui est à Paris hésitera entre un week-end à Lyon ou un week-end à Grenoble. Il faut que ça, ce soit possible dans 15 ans. Et c'est cet espoir-là, et c'est ce projet-là que nous portons.
Merci Alain Carignon.
Merci. Pour que les rideaux se lèvent, il faut qu'il y ait des clients. Et donc il faut ramener des clients à pouvoir d'achat dans Grenoble, on vient de développer pendant une heure comment faire revenir des clients à pouvoir d'achat qui viendront dans la ville. À partir de là, quand vous avez l'ensemble des facteurs que vous réunissez, sécurité, attractivité, propreté, mobilité, et que vous rendez possible par une image de la ville l'envie de venir, vous le faites. Quand vous recréez des congrès qui reviennent à Grenoble, vous le faites. Quand vous faites revenir des touristes pour des objectifs culturels, des liens avec la montagne, vous le faites. Si demain nous arrivons à créer, comme nous le souhaitons, les télécabines vers le Vercors, vers le Vercherousse, eh bien nous aurons une ville liée à la montagne, nous allons lui redonner notre image et nous aurons donc de nouveaux clients. Si nous stoppons la paupérisation de la ville, si nous stoppons l'appauvrissement de la classe moyenne et de sa valeur des biens et qu'elle garde son pouvoir d'achat, nous aurons des clients et nous pourrons lever les rideaux. L'évolution de la ville est telle qu'aujourd'hui, tous les facteurs alignés font qu'effectivement, nous avons une baisse de pouvoir d'achat, une baisse de clientèle, soit parce qu'elle ne vient plus, soit parce que celle de l'intérieur est appauvrie. Il faut donc stopper cela, renverser la tendance pour qu'à nouveau, notre centre-ville soit un centre-ville où on ait envie et la possibilité de consommer.
Merci. Olivier Noblecourt.
Bon, d'abord, répondre à la question sur la vacance des locaux. Ça suppose qu'il y ait une stratégie de diversification de l'offre et une foncière qui a été créée par la métropole pour porter des baux commerciaux, notamment sur des secteurs fragiles. Ça paraît être une bonne politique, ça ne réglera pas tout. Parce que, évidemment, le vrai sujet, c'est pas de faire porter par la puissance publique des locaux commerciaux qui seraient vacants, ça c'est un pis-aller d'une certaine manière, c'est d'abord de rétablir l'attractivité, mais moi je ne crois pas aux grandes déclarations lyriques, je crois là-dessus au travail patient, Il y a la nécessité, je le redis, de raccrocher notre ville au Grésivaudan, qui est un secteur aujourd'hui démographiquement et économiquement très dynamique, et donc ça suppose de faire le choix du tram, ça c'est un choix raisonnable et réaliste dans les prochaines années. Ça suppose de maintenir à minima la population dans notre ville. Il faut redire sans cesse que nous avons une ville qui a un solde naturel positif. On a plus de naissances que de décès, mais on a des gens qui quittent la ville. On a un solde migratoire défavorable. Donc nous avons besoin aujourd'hui de construire du logement et de garder des habitants. Et un des sujets sur Nerpic, c'est qu'on peut s'interroger sur la densité en habitat à côté de Nerpic, parce que s'il n'y a pas assez d'habitants dans la zone de Nerpic, on sait que la consommation sur Nerpic va beaucoup se faire en concurrence avec les autres secteurs. Donc c'est l'ensemble des politiques qu'il faut mener de manière cohérente et concertée. Nous devons aujourd'hui accroître l'attractivité, maintenir la population dans la ville, et puis nous avons la nécessité d'investir dans la qualité urbaine, parce que nous ne racontons pas d'histoire. Je ne crois pas qu'on combattra Amazon et le e-commerce par des grandes surfaces commerciales déshumanisées, par des supermarchés à ciel ouvert. La solution aujourd'hui, c'est en effet la qualité du centre-ville, la flânerie, le plaisir de la balade et le plaisir d'avoir des espaces qui soient conviviaux. Ça suppose de prendre ses responsabilités sur la sécurité, parce que sinon tout reste c'est du baratin, et ça suppose de mettre des moyens d'animation, de la vie dans la ville aujourd'hui, de remettre de la règle commune. Tout cela, ça me semble fondamental. C'est ce que nous allons faire avec vous. Nous créerons aussi des instances de gouvernance partagée avec les commerçants. On ne peut plus être dans une relation dogmatique où les élus ont raison et où les habitants et les commerçants auraient forcément tort.
Merci. Éric Clot, pour finir sur ce sujet.
Oui, d'abord, on peut noter quand même des points positifs. L'inversion de tendance sur le nombre de commerces vacants. Il était à 8-8, on était le quatrième centre commercial, centre de ville le plus dynamique de France d'après Propos en 2017. On est monté à 10,4, on est redescendu à 9,9, dont 1,2% sont en travaux. Donc on peut espérer que cela se reloue assez rapidement. L'embellissement de la ville, on en a parlé, l'accessibilité, la gratuité, le week-end, les transports en commun. Un peu plus à haut niveau de service vers Grésivaudan, je crois qu'il y a un enjeu, disons-le clairement, de faire revenir une partie de cette clientèle du Grésivaudan à Grenoble. Pas pour les achats de proximité, ils ont développé leur offre, c'est très bien, ils sont 100 000, c'est normal qu'ils aient une offre commerciale de proximité, mais pour que eux aussi, ils font partie du bassin urbain de ces 700 000, le cœur, le centre de Grenoble, c'est leur centre de métropole, donc ils doivent y revenir. La foncière commerciale, ça a été dit, nous l'avons lancée, à l'initiative de Pascal Couert, que je salue d'ailleurs ici, et je crois que nous avons un potentiel fort. Après, il faut aussi se dire clairement les choses. Sur Nerpic, nous avons été les seuls, le groupe que je préside à Métropole, nous avons été les seuls à nous opposer à Nerpic. Les élus socialistes, les élus des Républicains, les élus d'En Marche ont tous accepté de faire Nerpic. Donc il y a un moment, il faut être un peu cohérent, en fait. Il y a un moment, il faut un peu de courage. Effectivement, on a travaillé avec la belle ville à ce moment-là. Nous sommes opposés de façon marquée. Et voir que finalement, tout le monde, même si dans les couloirs, on nous dit « oui, effectivement, c'est pas super, oui, c'est risqué pour le centre-ville, oui, etc. » C'est des zones de chalandise d'un million de personnes qu'ils affichent. Donc c'est colossal. 7% des commerces du centre-ville, c'est colossal. Ben, finalement, tous ces élus laissent faire. Et donc nous nous opposons parce que nous sommes cohérents dans notre action, non pas juste pour faire plaisir aux commerçants, parce que je crois fondamentalement que le commerce de proximité et le commerce de centre-ville, de ville-centre, c'est quelque chose qui est majeur pour nos modes de vie, c'est quelque chose qui est majeur pour répondre aux défis climatiques, c'est quelque chose qui est majeur pour lutter contre ces pertes de liens et donc pour favoriser la transmission des compétences et le plaisir finalement de vivre ensemble.
Alors comment en tenir à la conclusion? Gardez votre micro, monsieur Fiol. Est-ce que c'est votre dernier mot, votre conclusion que vous venez de faire, ou vous avez peut-être encore quelque chose à ajouter rapidement?
La conclusion, effectivement, vous sentez peut-être dans ma passion sur le fait que le cap, nous sommes en capacité, je crois maintenant, de coopérer. Le cap, il est clair, peut-être qu'il est moins à rebrousse-poil aujourd'hui qu'il l'était en 2014. Je crois que ce dynamisme autour du commerce de proximité, autour du commerce de ville, il était là, on le partage déjà tous, pas forcément sur les méthodes de comment le vitaliser, mais on partageait cet objectif. Sur la question du changement climatique et du défi du changement climatique, peut-être que les choses ont changé en 6 ans et que nous sommes plus dans le sens de l'histoire. Donc nous sommes en capacité, je crois, de coopérer ensemble pour tracer sur ce cadre, tracer un chemin qui vous permette de vivre en tant que commerçant, qui vous permette d'accueillir les touristes, pas dans 15 ans, mais très vite, parce que le tourisme zéro carbone ça va arriver très vite. Quand on voit l'évolution des modes de vie et des modes de pensée, ça va arriver très vite. Donc je crois que nous pouvons porter ensemble cette passion du commerce, vous parce que c'est votre outil de travail, c'est votre engagement de vie, nous parce que c'est notre désir, parce que c'est dans la façon dont nous allons construire la société de demain, vous êtes un pilier central, et le commerce de proximité, comme le commerce de centre-métropole, c'est un enjeu majeur. Donc on fixe des caps, nous prenons des mesures fortes, rapidité des transports en commun, des plans clairs sur le stationnement, des actions humbles mais déterminées sur les enjeux de sécurité et de propreté, une vision sur le patrimoine et la mise en valeur de notre ville. Et je crois que nous arriverons ensemble comme ça à tracer un bel avenir pour toutes et tous. Merci.
Merci Olivier Noblecourt, le mot d'affin.
Oui, en fait, il faut commencer par le concret et par ce qui peut immédiatement avoir un impact. On est crédible sur rien si on n'est pas capable de prendre des mesures immédiates et fortes sur la sécurité, la propreté, ce que j'ai appelé dans notre projet le choc de sécurité et de civilité, et donc refaire prévaloir l'autorité républicaine et la règle commune. Ça, c'est le B à bas et on commencera par cela. Ça suppose aussi de penser les enjeux d'accessibilité, non pas avec les solutions du passé, mais avec ce qui vient devant nous et pour lequel Grenoble a tous les atouts pour être à l'avant-garde. C'est l'enjeu de la mobilité électrique. Nous sommes les seuls aujourd'hui à faire le pari de ces nouvelles formes de mobilité. Ces navettes gratuites, aujourd'hui intelligentes en ville, ces centres de vidéo protection, de vidéosurveillance, de supervision urbaine de la ville, qui vont totalement changer notre rapport à la gestion de l'espace public, à la qualité de l'espace public, parce que on va inverser la charge de la preuve. C'est plus les citoyens qui courront après des services publics plus ou moins bien organisés. Ce sont les services publics qui seront organisés pour régler directement les problèmes. Et c'est ce niveau d'abord de répondre dans la vie quotidienne qui va nous autoriser à être plus ambitieux demain pour l'attractivité, pour la diversification des commerces et pour croire qu'à Grenoble, en effet, on n'est pas condamné au déclin et au repli. Ce qui nous distingue par rapport à l'ERPIC, c'est que certains sont en défensive, en sentiment que finalement, la ville rabougrie, c'est pas si mal, qu'il faut qu'on se protège des autres. Mais l'ERPIC, c'est un projet de développement pour l'agglomération, un projet de logement, un projet d'aménagement très très large sur lequel des élus, des collectivités ont investi depuis bien longtemps. Nous pouvons faire le pari d'une métropole en croissance, d'une métropole qui invente un modèle de développement positif dans lequel les commerçants aient toute leur place. Le pire n'est pas certain. Sortons d'une vision défaitiste et défensive du territoire. Acceptons de miser sur nos atouts. C'est ce que nous proposons aujourd'hui avec Grenoble Nouvelle Ère.
Merci. Alain Carillon.
Bon, le bilan, il est connu. Mais cette agglomération mérite mieux. Cette grande métropole qui est la nôtre, qui devrait être en compétition avec Strasbourg, avec Bordeaux, avec Lyon, doit retrouver sa place dans cette compétition. Il faut absolument que nous mettions en place tous les paramètres qui nous permettent à nouveau de la mettre au niveau où elle a toujours été. En matière de repli sur soi, je pense que je suis le bon exemple avec ce que nous avons fait dans les 12 années de notre mandat en matière d'attractivité. Pas la peine de le rappeler. Demain, il faut que Grenoble renoue avec cette volonté-là et avec cette capacité-là. Pour ce faire, le commerce, c'est vraiment la convivialité, c'est la valeur ajoutée, c'est la sécurité de ces vitrines ouvertes, c'est la présence humaine, c'est le rapport entre les Grenoblois, c'est cette ville qui se crée avec celles et ceux qui parlent ensemble, et les commerçants jouent un rôle essentiel. À la fois par de grands objectifs, c'est ce que nous avons rappelé, et à la fois par ce que vous représentez, je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons remettre Grenoble à niveau. Et nous aurons besoin de tous pour le faire, mais je suis convaincu qu'ensemble, Grenoble pourra retrouver la place qu'elle mérite, qui est à son niveau, et que nous espérons tous.
Merci, Émilie Chalas.
Oui, merci. Écoutez, moi je crois que Grenoble a aujourd'hui, je sais plus, 15 ans, 20 ans de retard par rapport aux autres métropoles. C'est ça la réalité. Et c'est pas faire du Grenoble bashing que de dire ça. C'est de dire d'où est-ce qu'on part et où est-ce qu'on veut aller dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. C'est ça la question. Et moi je ne plierai pas à ceux qui, un peu démagogues, disent oh là là, vous faites du Grenoble bashing. Non. Quelle est la situation réelle de Grenoble aujourd'hui? C'est pas 10% de vacances commerciales qui vaut la moyenne des autres métropoles. Les 1000 centres dans les autres métropoles, c'est 5% la vacance, monsieur le maire. 5%. Donc à Nantes, à Strasbourg, à Montpellier, si c'est ça. Donc à un moment, je crois qu'il faut arrêter les faux-semblants, arrêter de prétendre qu'on a l'ambition de travailler ensemble alors qu'on tire un bilan de 6 ans qui sont quand même désastreux pour le centre-ville de Grenoble. Et quand j'entends les projets que l'on porte pour les 6 prochaines années de l'équipe sortante qui est de dire on s'est occupé du centre-ville, occupons-nous maintenant du sud de Grenoble, je me dis ben, si c'est ça, s'occuper du centre-ville pendant 6 ans, moi je n'en veux pas pour Grenoble 6 ans de plus. Donc il y a une vraie réalité à prendre les choses en main, à avoir un leader qui décide, qui planifie. Il faut sortir des études on en a 1000, pardon, mais à un moment, il faut agir concrètement, sereinement, et évidemment en faisant des choix, avec vous, des choix concertés, c'est pour ça qu'on créera le Conseil métropolitain de la vie économique et de l'innovation, pour mettre les acteurs de l'économie autour de la table et discuter avec vous de ce que l'on veut porter. De ce que l'on veut porter, pardon, j'ai mis un peu d'énergie et de force, je crois, pour Grenoble. Et ensuite, un mot quand même sur l'enjeu métropolitain. Je suis désolée, mais Nerpic ou Grand Place, parce que c'est pareil, on parle de Nerpic, personne n'interroge la ville de Grenoble sur Grand Place, alors qu'on a autorisé aussi le permis de construire, ou en tout cas le projet est sur le point d'être validé, ou il l'est d'ailleurs, les travaux vont commencer, je crois, peu importe. Mais enfin, c'est quand même du même acabit. Donc de qui se moque-t-on ? On autorise Grand Place et on s'interdit, on vote contre Nerpic. Il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Grand Place, comme Nerpic, prépare les friches commerciales de demain. C'est pas ça l'avenir du commerce. On sait faire bien autrement partout en Europe. Et c'est ça qu'il faut mener, la bataille de l'innovation partenariale avec vous pour de l'ambition pour Grenoble et évidemment contre le rabougrissement. Vous aurez le choix le 15 mars entre deux stratégies politiques. Choisissez bien.
Merci. Mireille Guarnano, bonjour.
Merci. La gauche a été aux affaires depuis 18 ans. Ils vous promettent monts et merveilles, mais en étant dans le top 5 des villes les plus endettées, je pense qu'ils ne sont plus crédibles. Aussi, un projet alternatif vous est proposé avec des personnes de la société civile. Faites-nous confiance, votez la liste « Mieux vivre à Grenoble ».
Merci. Le dernier mot à Christian Fran, quand même.
Eh bien, le dernier mot, c'est je vous remercie très chaleureusement, messieurs et mesdames les candidats et mesdames et messieurs ici présents. C'était une soirée de très bonne tenue. J'espère que ça a répondu à peu près à l'ensemble des questions que vous me posiez. Maintenant, la balle est dans votre camp pour les élections. Merci encore et très bonne soirée.
Clairement, c'est ça. Bon, bah, déjà. Voilà. Bon, à bientôt. Comment? L'essentiel.